Mardi 19 février, c'était le deuxième appel à une grève générale et nationale en 2019, à l'initiative des syndicats CGT, FO et Solidaires, ainsi que des organisations de jeunesse, UNEF et UNL. Outre l'abandon des réformes en cours, les revendications sont communes à celles des Gilets jaunes, également présents, comme celles sur le pouvoir d'achat. On écoute justement sur ce mouvement toujours mobilisé, Alex, des Gilets jaunes de Tourcoing, interrogé dans le cortège de la manifestation à Lille.
Partie des Gilets jaunes de Tourcoing, comme c'est écrit sur ton drapeau. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que vous en êtes de votre côté ?
Donc on est toujours au même point, c'est-à-dire qu'on tient le blocus par rapport au gouvernement. On veut absolument que le gouvernement donc change sa position sur sa politique et qu'il permette de vivre de son salaire qu'on a durement gagné et d'arrêter de payer toutes ces taxes qu'on a à longueur de temps, ce qui fait qu'augmenter. On fait que survivre, on n'arrive plus à vivre.
Les modes d'action, d'organisation, de mobilisation, c'est quoi actuellement ?
Donc on tient on a des manifestations qu'on fait sur l'île un petit peu toutes les semaines, de toute façon, tous les samedis après-midi, des marches qu'on organise. Donc là, on organise en particulier une marche le 23 mars, donc un départ de Tourcoing en direction de l'île. Donc le samedi 23, à partir de 8h30, un départ à 9h. Donc on essaye d'avoir le maximum de monde. Sinon, on a déjà fait aussi une marche il y a un mois, au mois de février. Le 23 février aussi, qui a bien fonctionné, mais là on essaye d'avoir sur cette fois-ci beaucoup plus de monde. Donc on a essayé de mobiliser un petit peu les gilets jaunes du département et voire plus. Donc on a apparemment deux personnes connues du mouvement qui viennent de Paris, qui montent sur l'île exprès pour ça. Donc on essaye de faire toujours du matraquage de tracts donc sur différents sites. Donc en particulier le CIT de Roncq, d'Aluin. On essaye d'être un peu partout, on matraque dès qu'on est quelque part, on a un paquet d'attractes et puis on y va. On est beaucoup aussi au contact de la population, essayer de faire venir un petit peu toutes les personnes qui sont encore chez elles, qui ont peur de ce mouvement-là par rapport à tout ce que les médias actuels rapportent. Donc on essaye de leur montrer que nous sommes vraiment un mouvement pacifiste. Après, oui, ça commence un petit peu à agacer tout le monde parce qu'on se dit depuis le 17 novembre, on n'a pas réussi à voir grand-chose, mais on va tenir.
C'était un mouvement très spontané. Ça commence à s'inscrire dans la longueur. Comment tu vois justement le fait de réussir à tenir, à garder le moral, parce que c'est pas facile de se mobiliser toutes les semaines, et aussi à tenir un rapport de force qui puisse faire que le gouvernement satisfasse quelques-unes des revendications des Gilets jaunes?
Nous, on va utiliser, on va dire, le nombre que nous sommes. Donc on est quand même assez nombreux en France, malgré tout ce qu'on peut dire sur les médias actuels. On est assez nombreux, nous tout au moins au niveau de Tourcoing, on est très mobilisés, donc on travaille par petits groupes. Chacun a des actions plus ou moins différentes, on essaye de se relayer comme ça. Donc on suppose que ça fonctionne aussi comme ça partout. Et puis on va dire, si ça prend 6 mois, 1 an, on tiendra, voire plus. On va dire, ce que je dis aussi à mes enfants, c'est qu'il y a eu 1789 qui a duré 10 ans. Il y a eu mai 68 qui a duré 2 mois. Le mouvement des Gilets jaunes, ça fait déjà 4 mois. Et il n'est pas là de s'essouffler parce qu'on est motivé. On est une famille. Quand il y en a un qui a un coup de bourre ou un blues, on le rebooste et on repart. C'est la solidarité. C'est ce que je recherchais aussi personnellement dans le mouvement, d'avoir une société qui n'est plus chacun de son côté dans l'individualisme, mais vraiment de se regrouper, de se solidariser.
Il y a les élections européennes qui approchent. Qu'est-ce que tu penses d'une possible stratégie électorale dans le camp des Gilets jaunes?
On va parler politique, donc je préfère m'abstenir de répondre à cette question-là. Je pense que chacun a son opinion. Maintenant, il faut le faire, c'est aller voter. Ne pas dire on va pas y aller, ça ne sert à rien. Il faut y aller, ça sert à quelque chose. Et après, je pense que chacun a déjà une idée, il faut aller où son instinct le dit.
Et sur la rencontre entre les Gilets jaunes et les syndicats, est-ce que ça apporte du progrès dans les mobilisations?
Moi j'étais à la base contre le fait de travailler avec les syndicats. On se rend compte qu'au final il faut qu'on réussisse à faire une unité, c'est-à-dire à rassembler tout le monde. Je pense que peu importe si on fait partie d'un syndicat ou pas, là ce qu'il faut c'est absolument avoir du monde. De toute façon on revendique les mêmes choses, tout au moins le syndicat avec lequel nous on s'entend bien, parce qu'ils nous aident quand même, ils nous donnent quelques idées, quelques conseils, donc on s'appuie de ça parce qu'ils ont quand même beaucoup plus d'expérience que nous. Mais après je pense que maintenant il faut arrêter un petit peu de regarder les différents syndicats, il faut se souder tous ensemble.
Chômeurs, salariés, unité, étudiants, retraités, unité, et plus
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes mobilisé aujourd'hui ?
On est mobilisé pour que nos retraites soient revalorisées, déjà, parce que notre pouvoir d'achat est toujours en baisse depuis, mais combien ? 5 ans, mais... hein ? Colette, il y a combien ? 5 ans que notre pouvoir d'achat est en baisse ?
Depuis plus grandes années que ça. Et surtout, on demande la suppression de la CSG, qui est une taxation absolument scandaleuse. On est en train de fiscaliser la sécurité sociale qui doit reposer sur le travail et donc le rapport de production dans l'entreprise. Et ce n'est pas aux retraités de payer ces taxes, la CASA, la CRDS, la CSG, moins 15% d'enlever sur nos retraites. Ça va bien. Voilà, c'est pour ça qu'on est là.
Les retraites doivent être augmentées par rapport au salaire, c'est ça. C'est ce que tu viens de dire.
Indexer, oui, il faut indexer par rapport... Au salaire, bien sûr, des salariés, quoi. Il n'y a pas de raison. D'abord, on fait toujours partie de la population active, vous voyez ?
Et alors là, on n'a même pas encore parlé de la réforme des retraites en cours.
En général, la réforme qui est en train de se mettre en place, elle va casser encore plus le pouvoir d'achat des retraités. Je ne sais pas très bien qui va payer les pensions dans les EHPAD. Hein ? si les gens acceptent, si les actifs, les jeunes acceptent ça... Ils sont voués à perdre pas mal de pouvoir d'achat, mais aussi un morceau d'espérance de vie. Hein.
On tend de plus en plus vers une retraite par capitalisation plutôt que par répartition. C'est des choses que vous avez, vous, qui ne vous concernent peut-être pas, vu que vous êtes déjà retraité, mais est-ce que vous pouvez me dire un mot là-dessus ?
C'est la remise en cause de la solidarité. La retraite par répartition, chacun paye déjà pour le... en fonction de ses moyens, mais c'est la solidarité. C'est la remise en
cause de ses besoins.
C'est la remise en cause du Conseil national de la résistance, du programme, ouais.
L'argument avancé, c'est que les personnes vivent plus longtemps, pas forcément en meilleure santé d'ailleurs, en bonne santé en tout cas, et que donc il faut augmenter le temps de travail et qu'il faut trouver des solutions parce que ça, les retraités coûtent de plus en plus cher. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument ?
Je dis d'abord qu'ils vont vivre moins longtemps avec les réformes qu'ils mettent en place et que quasiment près de plus de 50% des seniors dont nous faisons partie sont investis dans les associations qui permettent de faire le travail que l'État ne fait pas au niveau économique et social. Donc on leur fait faire de sacrées économies. Hein. Et quand on arrivera, si on arrive à la retraite à l'âge de 70 ans, je ne donne pas beaucoup de... je ne crois pas. Oui, il n'y aura pas beaucoup d'espérance de vie après et pas beaucoup d'interventions dans le social, dans l'économique des seniors. Ils seront trop vieux, trop fatigués, voilà.
Votre collectif, c'est femmes en colère, retraitées, maltraitées. Vous pensez que c'est important qu'il y ait un collectif de femmes retraitées dans les mobilisations ?
La moyenne des retraites des femmes, et particulièrement dans le département du Nord, est inférieure quasiment de 300 euros par mois. Certaines, la plupart, sont en dessous du taux de pauvreté. Et donc, comment voulez-vous qu'une femme puisse prendre, s'émanciper, avoir une activité culturelle, éducative, avec 500 ou 600 euros ? Pas possible. Donc ça veut dire qu'on accroît la dépendance des femmes, y compris au moment de la retraite.
Grève générale ! Et si ça continue ?
À notre micro, Colette et Annie de l'Union locale CGT des retraités. Ce 19 mars, il y avait également un mot d'ordre pour une journée école morte, pour montrer le désaccord avec la réforme École de la confiance du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Dominique, professeur en SECPA à Saint-Nicolas-les-Arras, secrétaire départemental du syndicat enseignant SNU-IPP-FSU du Pas-de-Calais, nous explique pourquoi elle s'oppose à cette réforme.
La réforme Blanquer, elle partait normalement des assises de la maternelle, c'est-à-dire la scolarisation des 3 ans, l'obligation de scolarisation des 3 ans. Et puis au fur et à mesure, on a eu des articles et des articles et des articles, et ça a détruit, si c'est mis en place, ça va détruire complètement le fonctionnement de l'école primaire actuellement. On change complètement de paradigme, et c'est-à-dire que même au niveau du fonctionnement, parce que c'est un fonctionnement collégial en fait dans les écoles, hein, c'est-à-dire il y a un directeur d'école, il n'y a pas de statut hiérarchique, et en fait tous les collègues décident des choses à mettre en place, c'est très collégial. Et en fait, voilà, ce qui est pédagogique, on le met en place ensemble. Et là, ce qu'apporte le ministre, eh ben, c'est un statut hiérarchique et c'est une hiérarchie intermédiaire, mais qui n'est pas les directeurs, qui est les chefs d'établissement du second degré. On va avoir des écoles en réseau et on va les rattacher au collège, ou soit on va avoir un gros collège avec des écoles dedans. Mais il y aura un directeur du premier degré, mais adjoint au chef d'établissement, c'est le chef d'établissement qui va décider de tout. Et donc là, c'est plus du tout la même chose, surtout qu'un chef d'établissement second degré, il ne connaît pas forcément le fonctionnement premier degré, c'est pas pareil. Et même l'accès des parents aux professeurs, ça va être plus compliqué aussi. Enfin, il y a tout ça qui change. Bon, après la loi Blanquer, il y a aussi tout ce qui est le ministre s'auto-évalue, en fait. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il va remplacer les CNSCO, donc les conseils nationaux de l'éducation, enfin de l'enseignement scolaire, où on évalue en fait le système éducatif. Donc les politiques qui sont mises en place tout ça au niveau éducatif, et là il va le remplacer par un autre conseil où il nomme 10 personnes sur 14. Donc s'évaluer soi-même, forcément, ça peut poser souci, où il va remplacer les directeurs, les directeurs de l'ESPE. Donc maintenant il y a l'ESPE, c'est l'institut de formation en fait des enseignants. Donc il va s'appeler l'INSPE au lieu de l'ESPE. Bon, avant c'était UFM, on change tous les 3-4 ans je pense maintenant. Mais par contre il va nommer les directeurs aussi, ce qui fait qu'il va avoir la main mise sur la maquette, la formation, en fait tout ce qui va être formation. Et là le ministre Blanquer, c'est les fondamentaux, c'est-à-dire français et maths. Il n'y a pas que ça quoi, on forme aussi les futurs citoyens. Alors évidemment le français et les maths c'est très important, hein, mais je veux dire on ne forme pas que les élèves que aux français et aux mathématiques. On va mettre en place des futurs travailleurs plus que des futurs citoyens, quoi. Et ça pose souci. Ensuite, ce qui pose souci, c'est le fait qu'ils puissent mettre en place des expérimentations sans avoir besoin de trop passer par des instances qui vont lui... Enfin, des garde-fous, quoi, en fait. Et donc ça pose souci parce qu'on a déjà un souci dans le département, enfin dans la région, avec l'association Agir pour l'école, qui vient dans les écoles, qui évalue les élèves. Parfois, les parents ne sont pas forcément au courant. Il faut savoir qu'Agir pour l'école... Enfin, une personne qui était au comité directeur, c'est le ministre, en fait, qui était au comité directeur. Et par exemple, c'est financé par Total, Betanco, enfin, des grosses entreprises privées. Donc nous, on ne veut pas du libéralisme dans les écoles. L'école, ce n'est pas une marchandise. Et pour l'accès, pour l'égalité à l'éducation, et puis pour que ce soit, on va dire, indépendant des politiques, il faut que justement, nous, on puisse garder notre statut. Et puis qu'on puisse défendre l'école et pas... Là, il est en train de détruire l'école, en fait, tout simplement. L'école publique, il est en train de la détruire pour mettre en place des écoles à plusieurs vitesses, parce que je pense qu'il y aura l'école des riches, l'école des pauvres, avec l'école du SOC et les... alors, comment ils appellent ça? Les EPLI, me semble, les EPLEI. Donc, en fait, c'est des écoles à deux vitesses, quoi. Et puis, il y a des endroits où on mettra plus d'élèves, puis d'autres où on mettra moins d'élèves. Et bizarrement, l'école des riches, il y aura moins d'élèves, et l'école des pauvres, il y aura plus d'élèves, quoi. Voilà. Bon, c'est très caricatural ce que je dis, mais on va y arriver. Bon, après, la scolarisation des 3 ans, c'est un peu du pipeau, hein, ce qu'il nous a annoncé au départ, puisqu'il y a déjà 98% des élèves qui ont 3 ans qui sont dans les écoles. Donc là aussi, c'est pour le privé, en fait, parce que comme... À partir du moment où on met l'obligation de 3 ans, on oblige les communes à payer pour les écoles maternelles privées qui se mettraient en place, puisqu'il y a la loi Kern qui dit qu'il faut que les communes mettent la main à la poche pour le privé aussi, alors que nous, on dit argent public, école publique, quoi. Voilà.
Hein. Il y avait un mot d'ordre, en tout cas, aujourd'hui, pour une école morte. Ça a été bien suivi. C'est quoi la réalité de la mobilisation dans les écoles primaires publiques ?
Bah nous, on a estimé à peu près à 30%, mais on a quand même pas mal d'écoles qui sont fermées. Mais ça dépend des secteurs. Il y a surtout sur le littoral, parce qu'il y a beaucoup de mesures de cartes, en fait, de fermeture de cartes. Et aussi, parfois dans les villages aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais je veux dire, c'est ce qu'on a remarqué. Parce que bon, comme il y a des fermetures, hein, vous savez que le ministre, par exemple, nous, dans l'académie, il a donné 44 postes. Sauf qu'il y a plus de 300 classes à ouvrir en CE1 REP, quoi. Et nous, par exemple, dans le département du Pas-de-Calais, il y en a plus de 100 à ouvrir et il nous a donné 0 poste. Donc voilà, il est pas, pour ça, il n'est pas très, très mathématicien, le ministre, puisque il n'y a pas bien compté. Mais il dit qu'on perd 2000 élèves. Donc 2000 élèves, chez nous, ça fait un par classe, ça fait 0,40 élèves par classe. Si on peut couper les élèves en deux, hein, c'est ce que je ne veux pas, bien sûr. Mais parce qu'on a plus de 1200 écoles, donc c'est rien, quoi. Je veux dire, proportionnellement au nombre d'élèves. Donc mathématiques, faut revoir les opérations et le sens des opérations, je pense.
À notre micro, Dominique, professeur des écoles dans le Pas-de-Calais. Et auparavant, Alex, gilet jaune tourquenois, ainsi que Colette et Annie, retraitées, militantes CGT à l'Union locale de Lille. Tout ceci a été enregistré le 19 mars lors de la manifestation lilloise suite à l'appel intersyndical interprofessionnel à une grève générale et nationale.